Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour. On continue sur notre lancée à la recherche des racines historiques des expressions françaises un peu bizarres. Le temps est passé par là et on est nombreux à avoir oublié ce que voulait dire à l'origine « avoir un nom à coucher dehors » ou « poser un lapin ». Mais patience, on va découvrir ça tout de suite.
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
Avoir un nom à coucher dehors, c'est avoir un nom peu commun ou difficile à retenir. Mais la façon dont c'est dit est plutôt vexante. On a un peu l'impression d'être un chien laissé sur le pas de la porte. Ce côté négatif est en fait présent dès l'origine de l'expression. Au Moyen-Âge, la police telle qu'on la connaît n'existe pas encore, et les chemins sont donc le domaine des brigands et des vagabonds errants, détrousseurs d'honnêtes gens. Du coup, les aubergistes doivent se montrer particulièrement prudents. Les routes sont peu sûres, les rixes éclatent dans les auberges, et on se méfie de tout inconnu qui demande l'hospitalité après la nuit tombée. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a détaillé tout ça dans un épisode sur le voyage au Moyen-Âge. Le promeneur qui arrive à l'auberge doit donner son nom au maître des lieux pour prouver qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Si possible, on essaye de savoir de quelle famille ou de quelle ville il vient, ou s'il appartient à une confrérie d'artisans, une guilde marchande ou une nation étudiante. Bref, on cherche à établir un lien avec la personne en retraçant son parcours. Et selon le nom, l'aubergiste qui a la responsabilité de la sécurité de tous ses hôtes, mais aussi de leurs biens et de leurs chevaux, prenait une décision. Tout en haut de l'échelle, il y avait les gens portant une particule de noblesse, montrant de bonnes manières, proches ou reliés à des connaissances communes, ou encore des membres du clergé. À eux les meilleures chambres. Puis venaient les autres, au nom bourgeois, à la mine honnête, capable de bien payer. Enfin, en cas de nom étranger un peu bizarre, ou si on avait un air un peu trop étrange, c'était direction l'écurie des chevaux, et alors on couchait dehors. Et imaginez si vous débarquiez avec carrément un nom pas chrétien. On se doute que dans le Poitou du XIIe siècle, on croisait rarement des Abdallah de Bourgogne. La diversité était peu courante et donc suspecte. Vous n'aviez même pas le droit à l'étable. C'était direct renvoyé sur la route parce que vous aviez un nom à coucher dehors. Petite variante plus récente, avoir un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Ça date de la guerre quand les armées logeaient leurs troupes chez l'habitant. Chaque soldat, y compris les mercenaires suisses, avait donc un billet de logement que les gens ne pouvaient pas refuser. Donc pour le coup, même si c'était un étranger au nom à coucher dehors, eh ben on l'accueillait malgré tout. C'était impossible de lui poser un lapin, comme on dit. Ah, poser un lapin. Ce sale moment quand vous attendez votre rancard et que personne ne se pointe. On vous a posé un lapin. Mais quel est le rapport entre votre amère solitude et ce gentil petit animal tout doux, tout mignon? Cette expression a énormément évolué au fil du temps. Alors son interprétation est assez difficile. Il existe plusieurs hypothèses. Dans leur livre « Le franc-parler », Michel Lys et Michel Barbier trouvent son origine au XVIIe siècle. Un lapin est un animal insaisissable, qu'on n'attrape jamais vraiment comme un tour de passe-passe. Du coup, on appelle lapin tout récit fantasque ou impossible à vérifier. Idem, une histoire de garenne, c'est une histoire peu probable, plutôt invraisemblable. On dirait de nos jours, tu le fais marcher, tu le fais courir, tu le tiens par le bout du nez. Le dictionnaire de l'Académie française confirme cette expression dès 1694. Au XIXe siècle, dans le nouveau supplément du dictionnaire d'argot de Loredan Larchet de 1889, cette expression a un peu évolué. Le poseur de lapin est devenu celui qui raconte des histoires qui vous fait espérer en vain. Dans les jeux de foire, les tourniquets ont un petit lapin très difficile à gagner parce qu'on n'arrive jamais à l'avoir. Les joueurs attendent donc quelque chose que le forain ne leur donnera jamais. C'est un sale poseur de lapin. Mais une autre explication existe, et celle-là date du XVIIIe siècle. Pour le coup, le lapin devient une personne bien réelle et bien cachée, encore une fois invisible et impossible à attraper. Selon le dictionnaire de la langue verte de Hector France, les conducteurs de diligence aimaient bien se faire un peu plus d'argent à chaque trajet. D'un côté, il y avait donc les voyageurs qui payaient un billet normal et le contrôleur des recettes les enregistrait. Mais de l'autre, le conducteur pouvait aussi vendre des billets au noir, de la main à la main. Le voyageur, planqué dans les bagages, faisait un trajet très inconfortable mais bon marché. C'était un lapin. À la fin de sa course, le cocher avait donc posé un, deux, voire trois lapins au contrôleur. Plus récemment, tous ces sens se sont amalgamés. Dans « poser un lapin », il y a l'idée d'être absent, de se faire attendre, de partir avant l'heure. Vu la réputation de cet animal, l'expression a même fini par prendre un sens sexuel. « Poser un lapin » veut alors dire « ne pas payer les faveurs d'une femme ». C'est donc ultra spécifique. Le lapin, c'est le libertin qui a recours aux prostituées. Sauf qu'il les pose, c'est-à-dire en argot qu'il les fait attendre. Mais attendre quoi ? Eh bien, leur argent, bien entendu. Le poseur a donc profité, mais aux dépens de sa victime. De nos jours, la charge sexuelle de l'expression a pas mal diminué. Souvent utilisée pour les rendez-vous amoureux ratés, elle vaut aussi pour n'importe quelle entrevue normale annulée en dernière minute, sans explication. Et ça, c'est mal. C'est très très mal. Presque aussi grave que tromper quelqu'un avec de la monnaie de singe. Comme quoi, les expressions anciennes tournent beaucoup autour des animaux. Hein. Et pour savoir ce qu'est la monnaie de singe, eh bien je vous dis rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à Éponine Le Gallio pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.